RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans les grandes gueules, l'avocat Charles Consigny, Zorabitant, cadre de la fonction publique. Nous sommes avec l'ami Didier Giraud. Didier qui est agriculteur en Saône-et-Loire. Il est 11h02, on est ensemble jusqu'à midi. On va maintenant accueillir notre invité pour le Face au GG.
Salut mes petits foies de veau.
Qu'est-ce qu'on aime bien dans la vie?
Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Une gros blochonnade, une belle fondue, une côte de bœuf.
On est bleu!
Avec les copains, avec la famille.
On est bleu!
Avec le teint bien marbré, bien violet, bien rougeau.
On n'est pas des Allemands!
C'est ça qu'on aime bien.
Ah, ça a été sa marque de fabrique. Ce sont des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Vous l'avez applaudi dans les salles de spectacle. Vous l'avez vu sur les plateaux télé. Il est comédien. C'est un notaire qui est devenu humoriste. C'est Jason Chicandier qui est avec nous. Bonjour, Jason.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Bravo à vous. Parce que il faut être quand même assez courageux pour se raconter comme vous le faites dans ce livre. Vous racontez vos addictions. Vous racontez que vous avez été accro pendant des années à l'alcool. Que vous avez failli en mourir. Vous avez été interné. Et vous raconter comment vous allez être sorti. Bravo, parce que c'est assez rare. En général, quand on est artiste, il faut montrer que tout va bien, qu'on est toujours, on a toujours la pêche, etc. Surtout quand on fait rire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des règles déjà d'être artiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et s'il y a des règles, on est beaucoup, c'est vrai, dans l'univers un temps de la confidence, de la confession, etc. Et ce que j'ai essayé de dire, déjà, j'ai essayé, comme je disais en citant Louis Ferdinand Céline, je suis écriveur et non pas écrivain, mais j'ai essayé de raconter une histoire avec peut-être des termes quand même un peu littéraires. Voilà, j'ai tenté l'exercice et je me suis dit, quitte à raconter quelque chose, autant le faire avec mes mots, avec cette gouaille que je garde un peu de Chicandier.
Et avec puis, cet humour noir.
Avec cet humour noir et surtout le faire avec humour, dans le sens où je voulais pas rajouter du pathos au pathos. Tout le monde, on voit ce qu'on vit en ce moment, il y a tellement d'horreur entre les guerres, etc., de tout ce qui arrive chez les gens malheureusement. Et donc, j'allais dire les confessions d'un petit comédien, voilà, alcoolique qui se raconte, ça n'a pas un grand intérêt.
Oui, mais c'est un survivant.
Voilà. Mais ce que je trouvais intéressant, voilà, c'est de dire que je parle un peu de bipolarité quand même. Oui. Et c'est que on n'est pas qu'une maladie, mais on est aussi le produit de plein de choses, de la chimie, etc. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie qu'en fait, mes choix de vie n'étaient pas forcément guidés par ma singularité, ce qui d'ailleurs m'a embêté, mais peut-être aussi parfois par la chimie.
C'est votre fille? De 12 ans qui
oui.
vous a aidé à arrêter tout ça.
Ouais. Ma fille, ça a été, c'est-à-dire que quand elle voulait plus me parler, moi, j'ai une famille un peu compliquée, un peu à la Bergman, donc j'ai vécu ce que c'était que les affres d'une famille dysfonctionnelle, et je ne pensais pas qu'un jour, moi qui voulais faire le gros père, nounours aimant, voilà, et qui effectivement bon vivant, et qui se met des petites rasades avec les copains, ça deviendrait quand même un calvaire de père alcoolo, quoi. Voilà.
Donc, racontez cette scène.
La scène, c'est quand en fait je bois trois quarts d'une bouteille de vodka dans un train parce qu'on doit me diagnostiquer ou pas une cirrhose. En fait, j'ai la trouille comme un gamin et je bois comme un trou pour évacuer ce stress. Je me réveille attaché à un brancard aux urgences psychiatriques à Avignon. Je rigole encore parce que évidemment je suis bourré, je suis sédaté, donc je suis dans un état second, donc je fais encore des blagues. C'est ce que je dis, je suis Loup de Wall Street mais version Carlos. Et donc à un moment donné, je rentre chez moi et moi je suis encore dans la blague, encore dans c'est bon, c'est les frasques du papa qui sont rigolotes. Et en fait, dans les yeux de ma fille, je vois qu'il y a plus rien de rigolo en fait, et que là elle veut plus me parler. Et elle s'est barrée chez une copine. Et c'est grosso modo, si tu te fais soigner, on peut discuter. Si tu te fais pas soigner, il y a plus rien à discuter. Et donc là,
va plus loin. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que vous vous êtes fait quasiment interner dans un établissement spécialisé, quoi.
Ouais. Complètement. C'est en fait, quand à un moment donné vous voulez vous en sortir, vous pouvez pas vous en sortir tout seul. C'est pas possible. J'étais trop pris dans les addictions, trop pris dans tout ça pour m'en sortir tout seul. On a beau dire, je veux pas boire une journée, je veux pas boire deux jours, mais la troisième jour, on se fait rattraper, etc. Donc il faut nous isoler et à un moment donné qu'on réfléchisse et qu'on se fasse aider.
Le piège, c'est que votre personnage était lié à tout ça, à la bonne bouffe, on picole, on rigole, etc.
Bien sûr.
Donc, comment on sort de ce piège?
C'est le plus compliqué. On est souvent bouffé par son perso, mais c'est un peu le principe même d'un personnage qui est... Le personnage, surtout si on l'a dépeint un peu fort. Moi, j'ai fait la gouaille de Chicandier. C'était pour en hommage au beauf de Cabu. C'était en hommage à Reiser. C'était en hommage évidemment à Coluche. Et on se met un paravent comme ça de beauf pour pouvoir dire ce qu'on veut. Mmh. Voilà, c'est le tonton bourré à Noël qui peut dire ce qu'il veut parce que c'est le tonton bourré à Noël. Donc moi, j'aime bien ces personnages, c'est rigolo. Puis c'est disruptif avec ce qui se passe. En revanche, c'est vrai que petit à petit, on est invité le midi, puis l'après-midi, puis passe dans mon bistrot, et puis passe le soir, et puis après la tournée, et puis tout ça. Et donc en fait, on se fait happer par son personnage. Et l'alcoolisme arrive comme ça.
C'était des vidéos sur YouTube aussi. Hein, bien sûr, vous receviez des personnalités quand même, en buvant des verres.
Ouais. Charles. C'est un message d'espoir pour Didier et Zora, qui. On l'a pas.
Didier,
tu peux s'en sortir quand même.
Je peux dire surtout Zora. Didier, oui, t'es pas obligé de mettre Zora. Vas-y, Zora, Charles.
Des années.
Incroyable.
Voilà. Oui, mais. Didier, tout à l'heure, avant de vous recevoir, il m'a dit quand même, il est violent, il est rude, son livre.
Moi, je voudrais.
Attends, Didier.
Vas-y.
Bah, du coup, moi, je viens d'un milieu où le travail est une valeur, mais où. La grenadine à 11 ans, on va la chercher dans le cubi, quoi. Mmh. Voilà, on coupe l'eau avec du vin. Donc c'est un milieu où finalement c'est quand même. Alors là-dessus, on y rajoute du rugby. 30 ans de rugby, je pense que c'est assez facile de sombrer dans l'addiction.
Tu l'as été, toi, alcoolique ou pas?
Je sais pas comment on qualifie l'alcoolisme. J'ai bu du vin tous les jours à table et je le fais plus, voilà. Je peux pas dire que j'ai pas une consommation d'alcool, voilà. Donc à un moment donné, c'est quoi l'addiction? Ça commence où? Ça s'arrête où? Je sais pas bien. Moi, j'avais une question. Est-ce que si vous étiez né dans une famille, on va dire, équilibrée, normée, est-ce que ça aurait été différent? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, alors entre les addictions, mais pendant très longtemps entre l'alcool et les humoristes, quoi, parce que
si
c'est parce que les plus grands, ils avaient tous un peu. Enfin moi je suis un fan de Jean Carmet.
Bien sûr, c'est pour ça que je parle un peu de maladie mentale dedans, et c'est sans se dédouaner, c'est simplement que je cite les grands bipolaires qui comme Charlie Chaplin, etc.
Comment elle se manifeste votre bipolarité?
La bipolarité, en fait, elle se manifeste justement. C'est pour ça que tes deux questions sont imbriquées. Est-ce que la bipolarité on l'a depuis qu'on est gosse? J'en sais rien, je suis pas médecin. Après, est-ce qu'elle se manifeste par des rapports un peu compliqués qu'on peut avoir, des schémas familiaux? Certainement. Elle se développe en tout cas comme un champignon. Et après, c'est ce qu'on appelle des causes de comorbidité. La comorbidité, c'est quand on a des problèmes mentaux, on a un terrain qui est beaucoup plus réceptif pour les addictions. C'est-à-dire que pour certains, il y en a, ils vont boire un verre de vin, ils vont juste dire c'est bon, moi j'arrête là. Et il y en a qui vont dire un verre de vin égale finir la bouteille, voire finir deux bouteilles, voire finir trois bouteilles. Voilà, c'est tout le problème. Donc j'aurais eu un schéma familial normal. Je pense pas que j'aurais eu sombré dans ces trucs-là. Après, c'est pas mes parents non plus qui sont responsables de l'alcoolisme. Et puis il y a des trucs que j'ai bien aimé faire. Moi, honnêtement, la bipolarité aussi m'a amené dans des excès que j'ai adoré. Quand je me suis retrouvé en porte-jartel avec des clochards à boire du pinard devant le Moulin Rouge, je trouvais ça quand même plus intéressant que faire des actes notariés.
Et aujourd'hui, vous arrivez à tenir? C'est plus une goutte d'alcool du tout?
Ah oui, aujourd'hui c'est zéro parce que j'ai pas le droit, j'ai pas la possibilité. De boire un peu. J'essaie de le raconter un peu. C'est comme ça. En fait, mon cerveau, il est ainsi fait que si je peux vraiment vriller avec un mon chéri, quoi.
Est-ce que vous restez drôle?
J'essaye de rester drôle. Je joue encore sur scène.
Est-ce que l'alcool vous aidait à vous lâcher dégénie, plus?
Alors, l'avantage, moi, que j'ai avec la bipolarité, c'est comme j'ai une bipolarité de type 1, c'est comme si j'ai mon rapport normal aux choses, c'est comme si j'avais bu trois verres déjà.
D'accord.
Donc si on rajoute à ça trois verres, ça devenait carrément délirant. Mais je suis
donc plus... en fait la bipolarité.
Et six verres, ça fait
à la fois.
Personne.
Et six verres, ça fait neuf.
Ça veut dire que la bipolarité à la fois est un cauchemar, mais ça.
Moi,
ça,
bien
ça,
sûr.
Ça fait de vous l'humoriste que vous êtes.
Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est un trait commun des grands humoristes? Enfin, moi, j'en ai plein en tête. Donc Carmet, parce que.
Bien sûr. Je sais pas si Carmet était bipolaire, mais en tout cas, ce qui est certain.
Charlie Chaplin était bipolaire.
Ouais, Charlie Chaplin était bipolaire, mais pas que lui. Churchill, bah, Marilyn Monroe,
été diagnostiqué.
Et puis il y a
Elizabeth Bourne, elle serait pas drôle du tout si elle était heureusement qu'elle l'est.
Qu'elle est pas drôle.
Mais attends, sinon elle aurait pas son humour. Hein.
Ouais, mais
je suis d'accord.
Vous-même, vous restez un déconneur, un amoureux des choses, et voilà, et un jouisseur et un bon vivant, c'est ça.
Je pense même. même que je suis plus, en tout cas, il y a des gens qui vont toujours pas me trouver drôle, mais en tout cas, j'essaye. J'ai plus de bonhomie aujourd'hui que j'en avais avant. Voilà, ça c'est sûr et certain. Je me lève le matin, j'ai plus la pêche, j'ai plus envie de faire rire mes petits congénères, j'ai plus envie d'être sympa avec tout le monde. Je suis un peu plus la meilleure version de moi-même aujourd'hui que je l'étais il y a 5 ans.
Zora.
Alors, il y a de l'humour, mais en même temps, il y a beaucoup de courage quand même, énormément de courage. Si, je pense que à un moment donné, peut-être que le déclencheur, c'est, effectivement, ça a été votre petite fille. Mais il y a quelque chose qui ne ment jamais, c'est le miroir. Et qu'à un moment donné, c'est votre petite fille qui vous a tendu le miroir. Mmh. Et là, vous avez traversé votre vie. Et c'est vrai que cette idée d'être de revêtir un personnage pour pouvoir jouer, faire le clown, faire le con, c'est super. Mais il y a un moment donné, la vérité, elle tombe. Et là, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez cette vérité, cette traversée un peu, cette nudité, alors avec vos mots, avec l'honnêteté de raconter les bas-fonds.
Et les témoignages de tous ceux que vous avez côtoyés aussi dans ce centre de réhabilitation.
Tout ce que vous avez atteint pour dire, ok, je vais peut-être aller au fond. Mais quand je vais pousser le pied, je vais remonter.
Il y a vous, et comme le dit Zora, il y a une galerie de portraits aussi dans ce livre.
C'est ça que j'ai aimé. Et
sacré portrait. C'est vol au-dessus d'un nid de coucou, d'ailleurs.
Pour reprendre ce que dit Charles par rapport à Elisabeth Borne ou par rapport aux politiques, ce que vous vivez toute la journée. C'est-à-dire que c'est une galerie, j'allais dire, de gens qui ont des masques et des surmasques et des positions, etc.
C'est peu dire.
Et au bout d'un moment, c'est insupportable parce qu'en fait, il n'y a plus de vérité puisque ce n'est que la phrase de l'autre qui est reprise par l'autre dans un schéma de je sais pas quoi. Quand vous vous retrouvez en clinique, il y a plus tous les masques tombent puisque tout le monde est à poil et tout le monde se dit des choses. Et c'est ça que je voulais dire. L'autre est intéressant puisque il y a deux possibilités dans la vie. Soit vous faites Sylvain Tesson, soit vous faites Welbeck, soit vous faites Nietzsche et Schopenhauer et vous dites que l'homme est con et qu'il vaut mieux se mettre dans les chemins noirs et caillouteux et se dire que on est tout seul près des cimes et loin des cons. Soit vous prenez l'autre en considération. Ce qui est le plus dur. C'est un schéma christique beaucoup plus compliqué. Et c'est de dire l'autre existe. Et je l'écoute, je prends la main, mais c'est ensemble qu'on devient meilleur.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez tombé le masque et vous dites quelque chose d'important, c'est que vous dites beaucoup d'univers, les gens ont ce masque, ils le posent pas, et il y a pire. C'est que quand ils rentrent dans une confidence, elle est aussi encore avec un masque. C'est encore plus pervers.
Ouais, mais...
Parce qu'on a une espèce de
fausse confidence.
C'est la grande mode. C'est-à-dire qu'on se met à nu et en vérité, c'est encore.
Ah non. Là, franchement, c'est un livre qu'on vous conseille.
C'est
une galerie de portraits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans cet établissement, vous côtoyez des gens.
Des histoires humaines.
Voilà.
Des histoires de gens qui sont partis à la dérive, sont partis dans l'addiction. Vous échangez. Vous les découvrez. Moi, il y a une phrase qui m'a fait marrer, c'est quand vous dites la sobriété, c'est absolument fantastique. Le hic, c'est qu'on s'y emmerde terriblement.
Bah oui.
c'est vrai, ça. C'est malheureusement vrai. Il y avait Nils Sarrestrup, ce génie de Nils Sarrestrup, qui était un grand alcoolique et un grand comédien, évidemment. Et en plus, il était vigneron et il avait dû s'arrêter de boire pour les mêmes raisons que moi. Et on lui avait dit, alors, comment ça se passe, la sobriété? Et il a dit, je m'emmerde. Et surtout quand on a un poil dépressif à la base. Quand on a conscience de l'autre et conscience de l'humanité, déjà on s'emmerde.
Alors comment on compense l'emmerdement où est-ce qu'on trouve le plaisir?
Justement, rendre les autres intéressants.
Exactement. Je bois pour oublier, moi y compris. Jim Morrison. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, c'est un allant que vous êtes obligé de faire, moi que je me force à faire tous les matins comme un mantra, en disant ok c'est chiant, ok c'est tout ce qu'on veut, mais on essaye quand même tous les jours, j'essaye comme le mythe de Sisyphe, et je prends le boulet, je le remonte tous les jours et on va trouver les autres intéressants et on va y aller.
Est-ce que vous avez d'autres addictions qui sont plus saines?
Le sucre. J'aimerais le sexe si je bandais, mais le sucre.
Bah c'est pas revenu ça.
non, mais ça ne m'intéresse pas. C'est des trucs de jeunes.
Non mais
c'est
beaucoup trop jeune. Chicandier sur scène, Chicandier au cinéma, Chicandier à la télé. C'est quand les projets? Ils sont là toujours de toute façon.
Les projets sont là. La scène est là avec mon pote Matou Kan. On a un spectacle qui s'appelle Interdit au public, woke s'abstenir. Pour voilà, c'est marqué dessus. Hein, voilà, comme le portrait.
Justement sur ça, parce que vous êtes courageux de raconter votre histoire. Vous êtes aussi courageux courageux parce que vous êtes l'anti-woke, mais l'anti-woke pas méprisant, l'anti-woke qui se moque aussi de ce que peut être un boomer avec ses trucs, etc. Mais c'est ça qui a marché chez vous. Quand vous disiez on n'est pas des Allemands, ben moi ça me faisait marrer parce qu'effectivement on veut nous transformer en Allemands maintenant.
C'est tout le problème.
C'est pas donc vous, c'est quand même un mouvement de résistance chez Grandier.
C'est tout le problème, c'est que j'aime bien. Alors je vais vous faire marrer. On fait le spectacle au départ et on se dit, vu qu'il y a Nova qui existe, etc., on va faire nous notre petite communauté de petits enculés de droite à mocassins, tranquille, etc. Et à un moment donné, on commence à se moquer des gens de gauche, voilà, mais gentiment, honnêtement, c'est pas non plus hyper corrosif. Et là, on se rend compte qu'on fait pas super recette, alors que notre public, il est plutôt CSP+, genre pharmacien, quoi. Et là, je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous rigolez pas quand on se moque des gens de gauche? Et ils disent, parce qu'ils nous intéressent pas. Donc en fait, les gens de droite aiment bien qu'on en parle d'eux-mêmes, voilà. Comme les grands bourgeois, ils aiment que quand on parle de leur famille. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on essaie de fédérer. Moi, j'essaye de moquer des gens de droite.
C'est pas évident aujourd'hui parce que les humoristes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont épiés. Il y a les réseaux sociaux, on découpe leurs sketchs. On comprend une phrase, on dit oh là, c'est horrible de dire ça. C'est vrai que c'est compliqué.
J'ai découvert un truc. Comment ce qui me fait marrer, c'est que j'ai vu que Mathieu Pigas était le milliardaire qui s'occupe de Nova. Oui. Et donc je suis allé voir sur Wikipédia parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un milliardaire d'ultra-gauche. Mais vraiment, très premier degré. Et je me suis aperçu qu'il avait revendu sa régie publicitaire à Lagardère, qui elle-même est détenue par Bolloré. Donc ça veut dire que les patrons de Nova sont Bolloré. Et donc là je me suis dit, c'est plus moi le cynique. ce monde est beaucoup plus cynique. Il est beaucoup plus cynique que ce que je croyais.
Voilà. Ouais. Merci Chicandier d'être passé par les GG. On vous conseille ce livre Accro chez Michel Lafon. Merci Chicandier. À bientôt sur scène. Donc les spectacles, c'est où
le spectacle, c'est vous allez sur mon site Instagram et nous sommes partout en France et nous continuons. Et merci de me recevoir à chaque fois, les amis.
Merci Chicandier. À bientôt. À suivre. Dans un instant, les grandes gueules. On va s'intéresser aux auditions, vous savez, de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et à ce qu'a dit Jacques Cardoz, l'ancien de Complément d'enquête sur France Télévisions. Il a dit ouais, mais France Complément d'enquête, en fait, ils avaient des liens avec la France Insoumise. C'est pour ça que certains sujets étaient refusés parce que la France Insoumise leur donnait des billes. Donc on va continuer d'en parler avec vous, bien évidemment, au 32-16, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les grandes gueules, avec Charles Consigny, avec Zora Bitant, avec Didier Giraud et avec vous, bien sûr, 32-16 pour continuer toutes nos discussions tous les jours de 9h à midi. On va s'intéresser à la commission d'enquête, vous savez, sur l'audiovisuel public, qui a écouté hier Michel Drucker, Patrick Sébastien, et puis un confrère qu'on connaît, Jacques Cardoz, qui était à France Télévisions et qui faisait Complément d'enquête.
Une enquête sur Jean-Luc Mélenchon me paraissait en 2018 absolument impérative. Lorsqu'on a un candidat à la présidence de la République qui dit « La République, c'est moi », et qui est de cette violence-là et qui manifeste cette violence devant les gens... Dans le même temps, alors que cette émission consacre des dizaines d'émissions à Nicolas Sarkozy, à toutes les personnalités de la droite, à quelques personnes de Parti Socialiste, et qu'il n'y a personne pour enquêter sur la France Insoumise, et on a évoqué cette question-là à plusieurs reprises, et ce qui m'a choqué, c'est d'entendre de la part d'une journaliste que c'était pas question, parce que la France Insoumise faisait partie de ceux qui donnaient les dossiers à l'enquête, à l'émission, et que donc on n'allait pas aller à l'encontre de nos intérêts.
Voilà, ainsi parlait Jacques Cardoz, qui a quitté d'ailleurs Complément d'enquête et France Télévisions, c'était en 2021.
C'est terrifiant.
Moi, c'est affligeant. Voilà, c'est service public, argent public, nos impôts. Quand on sait ici ce que les uns et les autres on est taxés et comment certains s'évertuent dans les bureaux à chercher à nous faire les poches tous les jours un peu plus.
Ce que disait Cardoz ensuite, et pour lui c'est un manque d'honnêteté intellectuelle, un manque d'équilibre. Il dit on doit être impartial dans la manière dont on mène les enquêtes.
Mais le viol des Français sur cette niche médiatique publique, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on vous prend votre pognon, vous payez pour des gens qui sont idéologisés, qui ont des biais et qui décident ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent mettre en avant ou pas. C'est extraordinaire. Je sais même pas si ça existe quelque part dans le monde. C'est-à-dire qu'on te fait les poches et on te dit, écoute, tu payes un média et je te vends ce que je veux et en plus tu te la fermes. Et lui, si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Et ça, c'est quasiment toute la chaîne de médias publics. Elle fait sa vie, elle fait la pluie et le beau temps. Je crois que ça, s'il y a un prochain président, s'il met pas ça dans sa liste des courses pour les Français, avec le courage derrière de mettre fin à tout ça, eh ben, franchement, lui, je sais même pas s'il va avoir des voix, parce que c'est quand même un truc qui est lié à la démocratie. Mais si, quand même.
Oui. Moi, je crois que les Français, s'en foutent un peu de ça.
Non.
Mais parce qu'ils ont pas conscience, en fait. Je pense que ce genre de témoignage, il passe un peu sous les radars. Et les gens, ils regardent la télé un peu de façon passive et ils ont pas ce recul sur ces choses-là. Après, moi, je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que c'est un scandaleux impossible, que parce qu'on te donne des billes, on n'a pas le droit d'aller gratter autour de toi. Et dans cette commission d'enquête, il y a lui, mais il y a aussi le témoignage de Patrick Sébastien derrière. Et c'est quand même tout le système qui est démonté, quoi. Enfin, de A jusqu'à Z, où on démonte le service public. Et je suis un peu d'accord avec toi, Zora, c'est dans les
dictatures.
C'est dans les dictatures où il y a une télévision
dédiée.
Oui,
mais ça continue.
Je pense que vous êtes un peu aguerri là-dessus, mais il y a plein de gens qui ne se doutent pas de ce que pensent les journalistes de France 2, quoi.
Dans les rédactions.
Oui.
Parce que c'est une profession.
Mais les gens qui gobent le
protégé.
Service public.
Je vais terminer. C'est une profession qui est quand même plutôt marquée à gauche, la profession de journaliste. Que dans les rédactions, on vote plus Mélenchon qu'Éric Ciotti, que les rédactions sont très parisiennes, donc on a plus voté au municipal pour Emmanuel Grégoire que pour Rachida Dati. C'est pas nouveau. Et dans le service public, c'est un peu plus marqué, effectivement, à gauche. Et donc, à complément d'enquête, on va sans doute être beaucoup plus complaisant avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec Jordan Bardella. Je dis pas que c'est bien, etc. Mais je veux dire, là, on enfonce un peu les portes ouvertes.
Non, mais là, on s'est avec ton pognon.
Voilà, c'est. Alors, le problème, c'est que quand c'est du privé, c'est
pour ça que
privé, là, c'est de l'argent public.
Non, mais ça.
Et ces gens-là qui demandent la fermeture de CNews, qui est privé.
Le système, ça s'appelle la Pravda, quoi.
Non, mais
quand c'est l'État qui organise la politique d'information de l'État, enfin, à un moment donné, ça s'appelle plus une démocratie.
C'est pas l'État, c'est les gens eux-mêmes, c'est là où tu te trompes. Vraiment, sincèrement, il n'y a pas de consigne. Ils appellent pas en disant, dis-moi, complément d'enquête, faites pas Mélenchon.
Non.
C'est qu'eux-mêmes, les journalistes,
mais c'est ton pognon.
Ont un biais. Voilà. Il faut être équilibré, c'est
Charles.
Non, mais au risque de vous surprendre.
Il n'est pas surpris.
Non, c'est que le fait de protéger ses sources, c'est un très vieux truc. Il y a des gens qui ne sont jamais attaqués par tel ou tel média. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des sources de ce média. C'est quelque chose qui est extrêmement courant. Donc ça, c'est, on peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais ça me choque pas outre mesure, dans la mesure où je sais que c'est extrêmement courant. Chaque journaliste et chaque média, chaque rédaction, chaque émission a ses sources. Et effectivement, il est rare que on s'en prenne à une source, de la même manière que quand un policier a une balance dans un réseau de narcotrafiquants, en général, la balance est protégée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu le même, pardon de cette comparaison, mais c'est un peu le même système. Pour moi, le problème à France Télé, il est beaucoup plus large. Et il est un problème, en fait, de lente dérive depuis des années où on mélange on a le bouclier de la gauche et du service public. Nous sommes le service public, nous sommes l'intérêt général. Donc on est inattaquable sur le plan moral. Mais en revanche, pour aller se la coller à Cannes à grands frais, on est là pour se surpayer les uns les autres. On est là aussi pour avoir, je sais plus combien c'était le chiffre
à droite.
De notes de taxi.
Le chiffre, oui, je crois qu'on était à 3 ou je sais plus combien, 5 millions, j'ai plus le chiffre, mais plusieurs millions d'euros de notes de taxi, etc., etc. Donc ça, moi, c'est plus ça qui me choque, c'est que ils avancent avec le drapeau du service public comme si c'était des infirmières de nuit aux urgences, alors qu'ils sont payés comme des jet-setters, comme des banquiers d'affaires. Ça, moi, je peux pas le supporter. Et par ailleurs, il est vrai que les médias étant un véhicule de pouvoir pour quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, pour quelqu'un qui veut au contraire se protéger d'éclairage médiatique, les médias, c'est évidemment quelque chose qui est toujours très sensible. Et on attendrait du service public, puisqu'effectivement c'est nous qui le payons, on attendrait un peu moins de perméabilité au jeu de pouvoir. Or, on voit très bien qu'en réalité, sur l'échiquier du pouvoir en France, le service public, c'est un pion tout à fait éminent. C'est le fou, c'est le cheval, c'est ce que vous voulez, mais il est sur l'échiquier du pouvoir. Alors qu'on aimerait que ce soit beaucoup plus étanche. Or, c'est pas du tout étanche parce que on a un peu laissé tomber. Faut mettre une espèce de De Gaulle à la tête du truc pour redresser tout ça, serrer la vis, faire des économies, casser les conflits d'intérêts.
C'est ça ma question, Charles.
Il faut changer. Je suis désolé pour Madame Ernotte qui a sans doute beaucoup de qualités. Moi, je pense qu'il faut changer de patron. D'ailleurs, ce joyeux bordel justifierait qu'on la démette de ses fonctions. En réalité, faut dire les choses comme elles sont.
Bien être conduit.
Oui, mais c'est un tel bordel.
Troisième mandat, ça.
Franchement, oui, tu vois, moi, entre ce qui est mis à jour,
c'est quoi la solution pour sortir
moi,
de ça.
Je trouve que ce qui est mis à jour par cette commission d'enquête montre un bordel hallucinant. Moi, d'ailleurs, si j'étais aux manettes, je nommerais à l'oncle à la tête de France Télé et je dirais vas-y,
là,
mon gars.
Il va y avoir une grève dans la foulée.
Bah, tu vires les grévistes. Ah non, mais moi, alors là, je serais d'une sévérité totale. Je change les règles, je casse le droit de grève et je te vire les grévistes dans la seconde. Je n'en ai rien à foutre. Alors là, mais rien à branler. Je te les dégage immédiatement et je dis à l'oncle, tu prends ta tronçonneuse et tu y vas. Tu coupes. Et donc Cannes, c'est fini. Les salaires mirobolants à six chiffres parce qu'il y en a, c'est fini. Les conflits d'intérêts, c'est fini. Les ambiguïtés, tu remets ce truc à l'endroit. Et on voit bien que c'est une boîte qui a besoin d'être mise à l'endroit.
D'ailleurs, n'importe quelle boîte
dans les auditions, auditions du service public.
N'importe quelle boîte privée,
c'est quand même ceux qui sont mis en cause, qui n'ont pas été reçus. Moi, les syndicats de journalistes de France Télévisions seraient.
Alors, il y a la CGT qui est venue quand même.
Mais ce serait pas mal qu'il soit auditionné. Moi, j'y ai travaillé.
Complément d'enquête, il a été entendu, ouais, le présentateur, complément d'enquête.
Je vais te raconter une anecdote qui est vraie. J'ai travaillé dans le service public, j'ai travaillé 6 ans. À l'époque où j'y ai travaillé, j'étais au chômage et j'étais payé à la tâche. Tu sais, j'étais payé au montage. J'étais avec un jeune réalisateur. J'étais dans une grande radio du service public. Et comme j'étais payé à la tâche, on m'avait montré une grande armoire dans laquelle il y avait des reportages qui s'entassaient en me disant bah, « Fais-nous le ménage là-dedans et tu seras payé au montage. » Donc, on y était deux. On en faisait. C'est là, je vous jure que c'est vrai. Et donc, comme on était payé à la tâche, moi, on débitait, on en faisait 7, 8, 10 par jour, quoi. Et c'était des bobines de 2 à 3 heures qu'il fallait monter. Jusqu'au jour où il y a un vieux syndicaliste qui est venu me voir et qui m'a dit, Nicolas et toi, Alain, vous devrez arrêter. J'ai dit, mais pourquoi arrêter? J'ai dit, moi, nous, on est
payé à la tâche.
Vous allez trop vite, vous abattez trop de boulot. Il dit, sinon, ce que vous faites, on va nous demander de le faire aussi. J'étais dans une unité de production. Je te jure que c'est vrai.
Et
il m'a dit, si tu veux continuer à piger, eh ben, tu t'arrêtes.
Tu vas trop vite.
Tu vas trop vite avec Nicolas. Je donnerai pas son nom parce que je crois qu'il est toujours réalisateur dans le service public. On a arrêté.
Regarde la brigade des feuilles.
Parce que sinon, on nous sucrait nos piges.
Regarde la brigade des feuilles des chevaliers du fiel. Hein, ça arrive dans tous les services publics. Ça. Mais moi, j'ai une question pour vous qui connaissez un peu mieux. Est-ce que la solution, c'est la solution à la Charles et à un moment donné à la Mireille, ou est-ce que la solution, c'est de créer un France 36 qui est plus à droite, quoi?
Non, moi, je pense pas. Mais simplement, je voudrais préciser que
de remettre la boîte à l'endroit.
Jacques Cardoz, il y a eu quand même un complément d'enquête sur Mélenchon en 2025. Parce que là, il parle, lui, du moment où il était, où visiblement c'était compliqué. Il y en a eu un en 2025. Donc, ça a fini par arriver.
Oui, mais
sur
le
Mélenchon.
Problème, c'est pas Mélenchon.
Moi, je pense que c'est une question simplement d'équilibre. Il faut un peu plus de pluralisme, sans doute, au service public. Et donc, c'est peut-être aux dirigeants de faire en sorte, effectivement, que d'être un peu courageux et qu'il n'y ait pas qu'un seul biais. Parce que là, il y a un biais qui est un peu trop visible. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des résistances. Bah oui. Et si tu vas prendre
Puis les mecs, ils ont des droits.
Parce que
ceux qui sont en place, ils ont des droits.
Oui, mais tu peux équilibrer davantage, ça peut se faire. Mais est-ce que c'est à la direction de le faire.
Allez, Antoine voulait en discuter avec nous au 32-16, mais on n'a plus le temps. Antoine qui voulait dire, on parle bien de Jacques Cardoz qui ensuite a terminé chez Hanouna et voulait rappeler que il crache peut-être dans la soupe aujourd'hui que le service public.
Oui, mais alors il faut savoir ce qu'on veut parce que le type.
Oui, mais pas la gauche de Mélenchon, oui, c'est ce que nous dit Antoine.
C'est compliqué. Cardoz, on peut lui dire il crache dans la soupe. Enfin, il pourrait pas dire. ce qu'ils disent, il est encore à France Télé. D'ailleurs, je vous conseille de dire, d'écouter ce que dit Michel Drucker, qui bosse toujours pour France Télé. Alors lui, il dit que c'est formidable, qu'il n'y a pas de problème, etc. Ah bah. Forcément, il est encore employé par la chaîne. Donc, c'est difficile.
Dans un instant, on va s'intéresser aux 12 interpellations. Vous savez, la mairie de Fresnes qui a été saccagée. 12 interpellations. L'âge de ceux qui ont été interpellés, 14-16 ans. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules au 32-16. Qu'est-ce qu'on va faire?
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Si vous voulez discuter avec les GG, c'est au 32-16 que ça se passe avec Didier Giraud, Charles Consigny, avec Zora Biton. On va s'intéresser maintenant aux interpellations de ceux qui ont saccagé l'entrée de la mairie de Fresnes. Ils sont 10 adolescents placés en garde à vue depuis hier dans le cadre de l'enquête sur la dégradation.
12 même maintenant, ça a bougé.
Et on est entre 14 et 16 ans.
Oui, selon le Parisien, selon nos confrères du Parisien, ils sont désormais 12. Ils sont tous mineurs. Vous vous souvenez de ces images assez impressionnantes où on voit le rez-de-chaussée de la mairie complètement saccagé. Donc, ils sont venus vraiment en mode commando, s'en prendre à la mairie de Fresnes. C'était vendredi soir dernier et c'était la veille de l'intronisation du nouveau maire, puisque Fresnes, ça fait partie de ces villes qui étaient à gauche depuis très longtemps, qui ont basculé à droite. On est dans le Val-de-Marne. La question est de savoir, ces mineurs sont pas arrivés là par hasard. Mais parce qu'en plus, ils sont pas là pour voler, mais pour saccager. C'est pas un magasin de basket. Donc c'est là, c'est une mairie, c'est pour saccager, etc. Alors quel est le commanditaire, cette bande organisée? Pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est l'arrivée d'un maire de droite qui a axé sa campagne sur la sécurité, etc. Qui provoque cette réaction? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ces mineurs, que vont-ils devenir? Ça va être intéressant de voir ce que la justice va en faire.
Cette élection municipale le cru de cette année est quand même assez particulier. Hein. Ça et là. On a vu des scènes de violence assez inouïes et un peu inédites dans notre monde en France, dans la démocratie que nous sommes. On a vu à Vaux-en-Velin la maire insultée, à Creil. On a vu des choses assez assez choquantes. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup choquée et surtout, ça m'inquiète vraiment. Et là, quand on voit un maire qui gagne par les urnes, et que le lendemain, une bande de jeunes de 14-16 ans part saccager la mairie. La première question que je me pose, c'est comment des jeunes peuvent-ils être malléables et perméables à des discours ou des choses qui, à la limite, je ne sais même pas s'ils les comprennent. Un maire de droite gagne, si ce n'est que leur donner des slogans à l'emporte-pièce, c'est des fachos, parce qu'évidemment, dans cette campagne, tout ce qui n'était pas LFI était facho, donc un maire Les Républicains ou au centre devient facho. Donc si on radicalise les gosses à l'idée que tout ce qui n'est pas LFI est facho, c'est facile de venir leur dire, écoutez, il va falloir que vous meniez une attaque en bonne et due forme, parce que le maire qui vient d'arriver dans cette ville est un gros facho qui va vous mettre de la sécurité et vous punir et mettre de la police partout. Donc c'est au-delà de ces jeunes qui ont 14-16 ans et que la justice va peut-être pas punira peut-être avec un stage de citoyenneté, mais parce qu'on est habitué maintenant, on n'a pas baissé les bras, mais presque, c'est-à-dire qu'il va rien se passer pour ces jeunes. Les commanditaires, je sais pas si on va les trouver, peut-être, pas sûr, mais c'est tout le discours.
Les jeunes, on les a trouvés très vite.
Voilà. Quartier, hein, oui, non, mais c'est tout le discours qu'on infuse. C'est tout le discours qu'on infuse. Va attaquer la mairie, allez attaquer la mairie et la saccager. Pourquoi? Pourquoi?
Didier.
Écoute, moi j'ai deux propositions vu l'âge des délinquants là, c'est que les jeunes là, le TIG là, ça soit stage commando en Guyane avec comme encadrant les commandos d'infanterie de marine, et puis les parents en taule quoi. À un moment donné, les commanditaires, si on les attrape, très bien, mais là pour ces jeunes, enfin je suis désolé, entre 14 et 16 là, à part les ramper dans la boue, je vois pas ce qu'on peut faire pour les remettre dans le droit chemin.
Et responsabilité des parents.
Et les parents en taule, Voilà, on s'attaque à un symbole de la République qu'est la mairie le lendemain d'une élection qui nous convient pas. On est en dehors de l'arc républicain.
Il y a mieux,
pour moi.
Tu vas au porte-monnaie, je vais te dire tous les mois.
En
tu
taule.
Pas mais peu importe, tu réduis les prestations sociales.
Ils vont être insolvables dans 4 matins, les parents.
Insolvables. Non, mais Didier a raison, je trouve. Manifestement, ces jeunes, sans faire l'enquête à la place des enquêteurs, ont été commandités par des réseaux de narcotrafiquants, hein, Il n'a pas fallu leur donner beaucoup d'argent ni beaucoup les convaincre pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Et donc, on continue avec ce problème d'avoir toute une partie de notre jeunesse qui s'est complètement racaillisée et qui se sépare du reste de la société pour s'adonner joyeusement au narcotrafic quand c'est pas à l'islam radical. Donc, je serais, moi, tout à fait favorable à des sanctions qui tapent les familles, parce que je pense que c'est quand même aux familles. Quand on a un gamin de 14 ans, c'est encore aux parents de le tenir. Et donc, effectivement, non pas mettre les parents en tôle, parce qu'il faut pas délirer, mais en revanche, couper les prestations sociales, oui. Expulser du HLM, oui. Je suis désolé, il faut, à un moment donné, prendre des mesures solides. Et ensuite, les enfants, tu dis les faire ramper dans la boue. Ces ados-là, moi, je pense qu'on peut effectivement essayer de les rattraper par le col en les envoyant dans un format militaire. Je sais que ça, les gens disent « Non, ce n'est pas la solution, etc. » Moi, je pense quand même que si on les envoyait nettoyer le Charles de Gaulle, alors là, il n'est plus à quai, mais si on les envoyait dans la rade de Toulon, se lever à 6h du matin ou 5h du matin, en rang, à chanter la Marseillaise au lever du drapeau, et le premier qui mouffe, il prend 10 jours de redressement, et ben je pense qu'on pourrait les rattraper dans la société, et pour leur bien on les remettrait dans la société. Là, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être vaguement suivis par un juge des enfants,
éducateur de la PJJ,
ça va prendre des mois et des mois. Ils vont faire l'objet d'un traitement complaisant parce qu'ils sont mineurs. On va considérer que c'est une atteinte au bien, qu'il n'y a pas de victime physique, que somme toute ils ont été poussés par plus fort qu'eux, et tout ça va se diluer, se fondre dans un truc à la
dont
il ne restera rien.
Bah, les contribuables.
Et c'est Nicolas qui va payer la cuenta.
Donc c'est comme d'habitude. Ceux qui payent des impôts à Fresnes qui paieront.
Comme d'habitude en France.
Et, nous, parce que
et pas qu'à Fresnes, puisque tu sais, il y a des transferts.
Mais oui, les dotations.
Donc voilà, moi je pense que honnêtement, c'est terrible d'avoir si régulièrement ces débats sur cette jeunesse et qu'on décide à ce point-là peu de la prendre en main. Il y a un moment donné, faut sortir de cette logique des éducateurs, des machins. Moi, je te dis qu'il faut les envoyer avec des militaires, il faut les envoyer dans des pensions, il faut les sortir de ces quartiers.
Mais regarde, il y a des
parce que c'est ces quartiers qui les enfoncent là-dedans. Voilà.
Il y a des communes qui vont désarmer la police municipale et supprimer la vidéosurveillance.
Oui, oui.
Ils ont fait.
Moi, j'attends de voir dans les crimes et délits quand les familles seront touchées. On verra si elles veulent encore être au pays d'Oui-Oui. Complètement idéologisé à ce que, en fait, en faisant disparaître la prévention, on va supprimer l'acte de délinquance. Super.
Ouais, mais là, est-ce que les militaires, ils n'ont pas autre chose à faire que de reprendre?
Non, mais
bien sûr.
Mais l'idée, c'est du paramilitaire, c'est du. Enfin, voilà.
C'est
des militaires à la retraite, c'est je sais pas quoi, mais. Enfin, que les.
Il faut les sortir du contexte.
Que les éducateurs.
Mais
oui, mais oui, je leur demande même pas leur avis.
Ils enrôlent dans l'armée, ceux qui se. Non, tu leur demandes quand même leur avis avant de les enrôler.
Il y a des
gens qui
Il y a une époque,
tu leur demandes à quelle heure tu veux aller dans l'armée, à 10h ou à midi.
Non, c'est pas ça, mais moi, je trouve qu'il faudrait imaginer un format où il soit pris en charge de manière très stricte, effectivement par l'armée, pour apprendre les horaires, le patriotisme, le respect de son prochain.
Et peut-être
et
un
comme
métier
ça,
aussi,
et comme ça, peut-être que ça créera quelques vocations.
Il existe un dispositif en France qui s'appelle les EPID. Et comme nous, on est toujours frileux, les EPID, c'est des établissements d'internat avec tu te lèves, etc. Mais compris ces dernières années, une orientation d'insertion. Et sur le volontariat. Donc on n'est même pas capable de créer des structures où il n'y a pas de volontariat. C'est honteux.
Si, les centres éducatifs fermés.
Ça n'a pas toujours été comme ça, Zora.
Non, Charlie.
Dans la France du général de Gaulle, le juge, il avait une feuille et c'était ou ballon ou 5 ans de Légion. Ouais. T'avais le droit, t'avais le choix. Il y a plein de parcours qui sont créés là-dessus.
À 15 ans, tu commences ta vie dans un EPID et à 85 ans dans un EHPAD.
Voilà, ouais, c'est ça.
Un beau parcours.
Ouais, c'est surtout
beau parcours.
C'est surtout que dans cela, il y a peut-être des. Il y a peut-être des futurs Janitos, là, ou Ganitos, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui à 21 ans auront déjà 7 ou 8 ans de placard.
Ce sont les mêmes qui ont. Souvenez-vous des émeutes après la mort
de Naël.
Ils ont pété aussi
ils
des médiathèques.
Ils ont pété
des médiathèques, du bâtiment public, etc. C'est les mêmes.
Mais bien sûr.
Et on a fait quoi, ces gens-là?
Rien.
Les condamnations,
les condamnations par
il y en a eu quelques-unes qui étaient sévères.
Il y a des condamnations sévères. Une invitation.
Les condamnations à
le faire venir dans les GG, le maire de Fresnes.
Oui.
Ce serait pas mal, peut-être, de le faire venir.
Ouais, le médiatiser, ça va l'aider. Ouais. Tu vas lui mettre la cible dans le dos, comme ça. Oh.
C'est-à-dire que quand il sera là, ils pourront saccager sa mairie plus facilement.
Mais il faut qu'on le fasse venir avant sa mort, en tout cas.
Oh là là.
Non, pardon. On était en direct.
On se retrouve demain, 9h midi. Merci à tous d'avoir été avec nous au 32-16 durant ces 180 minutes. Rendez-vous demain, donc. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Nous on va parler de Total, bonne nouvelle Total, qui a décidé de bloquer ses prix à 2,09€ le litre de gasoil jusqu'au 7 avril. Le problème c'est qu'il va y avoir des pénuries lors du week-end de Pâques. Alors faut-il rationner le carburant?
1200
stations qui sont à sec. Est-ce qu'il faut rationner le carburant pour éviter les pénuries? Vous savez qu'on a fait ça la dernière fois quand il y avait la grève des raffineries.
20 litres par personne.
30 litres par personne. 30 litres a priori ça te permet quand même de faire plus de 200.
Si tu vas chez tes beaux-parents qui habitent en Bretagne,
l'aller-retour,
tu fais pas 30 litres.
Déjà, ça te fera un prétexte pour pas aller les voir. Et deuxièmement, c'est une bonne chose. Et ensuite, deuxièmement, tu fais un arrêt de bus.
T'as des beaux-parents en Bretagne qui restent en Bretagne.
Mais ça permet à tout le monde de pouvoir avoir du carburant moins cher, en fait.
Mais pas que tu roules à Pâques, hein.
Tu roules, tu sais quoi, tu t'arrêteras sur la route, tu iras voir un petit monument sur le trajet, et puis voilà. Et les gosses iront jouer sur l'air de jeu ou iront au McDo.
Et toi, tu crois que ce que Pouyanné il perd ses temps, il va jamais le récupérer, quoi.
On
parlera de ce constat. Un jeune Français sur trois regarde YouTube. Est-ce que YouTube va remplacer la télé? Ça, on en parlera à 13h30, dites-nous ce que vous regardez sur YouTube notamment. On parlera également de l'IA. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Il y a un Américain, il a vendu sa maison. Il a vendu sa maison 85 000 € de plus que les estimations des agents immobiliers. En fait, il a fait des prompts très précis sur l'IA en demandant à quel moment en fait j'aurais le plus de chances de vendre ma maison en réussissant à avoir de plus belles photos, etc. Il a fait en fait 123% d'augmentation par rapport à ce que lui prédisaient les agents immobiliers. Alors justement, immobilier, argent, voyage, est-ce que vous seriez prêt à confier votre vie à l'IA? Ça, on en parlera à 14h.
Avant de demander une augmentation, tu peux demander conseil à l'IA. Alors.
Mais évidemment.
Bien sûr.
Évidemment.
C'est bon à savoir.
Et puis, le tu préfères. On a envie de parler vacances. Donc, tu préfères. Parce que c'est bientôt
la mer ou la montagne.
Non, ça, c'est déjà fait.
On est mercredi, c'est déjà
fait. C'est un tu préfères que nous n'avons jamais fait. Tu préfères valise cabine ou valise en soute?
Valise cabine.
Cabine,
on te dit, il n'y a plus de place.
Ouais, et on va en soute.
Moi, cabine, moi.
Donc, t'as tout trié, t'es
j'emmène le minimum.
Dans le coffre de mon vieux minimum.
Comme disait Mick Jagger, je pars avec ma carte de crédit et ma brosse à dents, c'est sûr.
Mais ouais.
Oui, parce qu'il achète tout sur place.
Il trouvait tout sur place, ouais.
C'est ce que je fais aussi. Je suis le Mick Jagger des GG.
Hors sol.
Allez, bonne émission avec Estelle.
Quelle indignité.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.